Europe Midi, Romain Desarbres.
Bonjour à tous, 12h30 pile, ravi de vous retrouver pour Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Beaucoup d'émotions, évidemment, aux obsèques de Jean-Paul Belmondo à l'église parisienne de Saint-Germain-des-Prés. Alain Delon, l'ami et rival, est venu. Zoé Pallier va tout nous raconter. Agnès Buzyn va-t-elle ou non être mise en examen? La réponse, dans les minutes ou les heures qui viennent, l'ancienne ministre de la Santé est face au juge de la Cour de justice de la République. Quelle est sa stratégie? Quel est son objectif? On verra ça avec Louis Dragnel dans un instant. On sera en direct de Pamiers dans l'Ariège où une usine a brûlé ce matin. La population a dû rester chez elle à cause des fumées. On sera en direct avec Benjamin Peter, notre envoyé spécial. Les 20 ans des attentats islamistes contre le World Trade Center à New York. Ça sera demain jour pour jour. Où en est-on de la menace terroriste? On sera en direct avec Mohamed Sifaoui. Et puis de la boxe ce soir à Roland-Garros. On oublie les balles de tennis, on enfile les gants de boxe. On va vous raconter comment on a transformé le temple de la petite balle jaune en temple de la boxe.
Europe 1.
Le dernier adieu à Jean-Paul Belmondo, c'est ce matin, depuis 11h, depuis 1h30, à l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Zoé Pallier avec nous. Bonjour Zoé. Les obsèques de Jean-Paul Belmondo, célébrées dans l'intimité familiale, mais la famille et les amis de Bebel, ça fait du monde, hein?
Oui, en effet. Là, je suis au cœur d'une foule très compacte qui attend devant l'église Saint-Germain-des-Prés. Alors, beaucoup de fans frustrés d'avoir dû suivre hier la cérémonie aux Invalides derrière un écran. Stéphane, par exemple, il a choisi de se rattraper. Aujourd'hui, il est arrivé parmi les premiers ce matin.
On vient de près d'Angers. On est parti ce matin à 5h30. On a fait 3h30 de route. Pour moi, c'était un devoir effectivement de venir ici. J'ai entendu beaucoup de témoignages. C'est le minimum que je peux lui faire. Je ne me voyais pas ne pas venir.
Et c'est dans un grand silence que les membres de la famille de Belmondo sont arrivés un à un, sa fille, son petit-fils Victor. Dans la foule, Nathalie, elle, est vêtue de noir sous l'émotion. Elle peine à regarder le corbillard.
C'est encore plus dur qu'hier, en fait. Hier, j'étais aux Invalides. J'ai pas pleuré et là, je crois que je suis dévastée, quoi. Moi, je suis née en 1961. C'est 60 ans de ma vie, quoi.
Des fans qui se hissent sur la pointe des pieds pour ne rien manquer de l'arrivée des stars, Jean Dujardin, Claude Lelouch et Alain Delon, venus avec une canne mais souriant sous les applaudissements. À 11h, le cercueil a été emmené dans l'église. J'ai l'impression de voir partir quelqu'un de ma famille, confie Fabien.
C'est un moment d'émotion, là. On sent qu'il s'en va vraiment. Donc là, on le voit partir, là. On ne le reverra plus, sauf à la télévision. Voilà.
Voilà, alors pour l'instant, les portes de l'église sont toujours fermées. Elles ne devraient pas tarder à s'ouvrir. La cérémonie sera suivie d'une crémation, cette fois dans la plus stricte intimité familiale.
Merci beaucoup Zoé Pallier, devant l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Agnès Buzyn se défend ce matin devant la Cour de justice de la République pour sa gestion du début de la crise du Covid. Avant d'écouter vos informations, Louis Dragnel, on écoute tout d'abord ce qu'a dit l'ancienne ministre de la Santé qui s'est exprimée à son arrivée à la CJR ce matin.
Aujourd'hui, c'est une excellente opportunité pour moi de m'expliquer et de rétablir la vérité des faits. Et je ne laisserai pas salir l'action du gouvernement ou mon action en tant que ministre, alors que nous avons fait tant pour préparer ce pays à une crise sanitaire mondiale dont, je le rappelle, elle dure encore.
Louis Dragnel avec nous. Bonjour Louis.
Bonjour Romain.
Chef du service politique d'Europe 1. Agnès Buzyn, vous nous dites, a un seul objectif, c'est éviter à tout prix, j'allais dire, quoi qu'il en coûte, la mise en examen. Hein.
Oui, et en plus, alors, ça avait commencé mal quand même, parce qu'il faut savoir qu'elle ne s'était pas présentée à la dernière convocation et ça avait fortement déplu. Alors, Agnès Buzyn est donc arrivée ce matin à 9h30. Gestion des stocks de masques, contradiction sur la nécessité ou non de porter ces masques. 14 500 plaintes ont été déposées, un record. Les juges lui reprochent son absence d'anticipation et son abstention volontaire de combattre le sinistre. Et ce qui pose problème, ce sont les propos contradictoires de celle qui travaille aujourd'hui pour l'Organisation Mondiale de la Santé. Le 24 janvier 2020, elle déclare « les risques de propagation du coronavirus dans la population sont très faibles ». Et puis en mars 2020, au lendemain du premier tour des élections municipales, elle lâche « je savais que la vague du tsunami était devant nous, on aurait aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade. À l'issue de cette audition, Agnès Buzyn peut être mise en examen, vous l'avez dit, ou ressortir sous le statut de témoin assisté. Pour terminer, deux autres responsables politiques devraient être ensuite convoqués, l'actuel ministre de la Santé Olivier Véran et l'ancien Premier ministre Édouard Philippe.
Merci Louis Dragnel. C'est vrai qu'il y a une question qui se pose, Louis. Est-ce que c'est la place d'une ancienne ministre de la Santé d'être devant des juges, ou est-ce que elle doit passer juste devant, j'allais dire, comment on appelait ça, le tribunal politico-médiatique? Est-ce que elle doit être jugée par la Cour de justice de la République?
Alors, la Cour de justice de la République, précisément, débat, hein. Et alors c'est un vrai débat effectivement qui agite la classe politique, mais la Cour de justice de la République sert précisément à juger les ministres par rapport aux actions qu'ils ont conduites alors qu'ils étaient ministres. Donc c'est vraiment fait pour ça. Et ensuite, effectivement, vous parlez du débat médiatique, du jugement médiatique. Eh bien, on est entré dans une ère où, effectivement, toute action de ministre ou de candidat à la présidentielle est très rapidement jugée médiatiquement. C'est pas forcément très positif par rapport à l'époque dans laquelle on vit.
Merci Louis. Louis Dragnel. Allez, on va partir à Pamiers. Pamiers dans l'Ariège. Je vous le disais dans les titres, il y a eu un incendie ce matin. L'usine s'appelle Aubert et Duval. Elle a brûlé une bonne partie de la matinée. La fumée était inquiétante. Benjamin Péter en direct avec nous. Bonjour Benjamin, envoyé spécial d'Europe 1. Qu'est-ce que vous voyez? Dites-nous.
Eh bien, je me trouve en face de l'usine. D'ici, on aperçoit toujours un petit panache de fumée blanche, mais on est très loin de l'épaisse fumée noire qui survolait la ville tout à l'heure. Toute la matinée, les pompiers ont projeté en fait de la mousse qui a permis de circonscrire le feu, qui avait pris tôt ce matin dans un bain d'acide. Il y avait donc ce risque toxique. La préfecture a donc ordonné le confinement dans un rayon de 200 mètres. Tous les accès étaient contrôlés par la police. J'y ai croisé Hélène et ses enfants, un peu inquiets de l'odeur qui s'est répandue dans la ville.
On a eu une odeur de plastique brûlé. Enfin, moi, j'ai cru que ça prenait feu à l'appart, mais en fait, bon, c'était pas là. Et après, c'était en les emmenant à l'école. Du coup, là, ils nous ont dit on peut pas prendre les enfants, ou alors ils restent vraiment calfeutrés dans une pièce. Enfin, voilà, on est venu là. D'après ce que j'ai compris, c'est un bac d'acide qui a pris feu. Donc, c'est vrai que c'est pas rassurant quand on voit les émanations que ça peut faire, quoi.
Alors, un peu plus loin, Jean-François, qui est bouché, s'est confiné, lui, dans la boutique avec ses collègues.
D'abord, il y a la sirène et sirène de catastrophe qui ont sonné. Et puis ensuite, la police et les pompiers qui sont passés pour nous dire en fait de rester enfermés, quoi. Disons qu'on est un petit village dans l'Ariège, donc c'est vrai que c'est toujours impressionnant quand il y a des choses comme ça chez nous, quoi.
Voilà, alors le centre-ville désert rappelait forcément de mauvais souvenirs du premier confinement de printemps 2020, mais depuis une heure, il est désormais levé, tout risque est désormais écarté, la vie, notamment dans les écoles, est en train de reprendre normalement.
Voilà, un bref confinement ce matin à Pamiers. Merci beaucoup, merci Benjamin Péter pour toutes ces informations. 12h38, restez bien avec nous sur Europe 1 dans un instant. On verra l'état de la menace terroriste, 20 ans, presque jour pour jour, c'est demain. Après le 11 septembre 2001, on sera en direct avec Mohamed Sifaoui. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h40, c'est le troisième jour du procès des attentats du 13 novembre 2015. Ça va être une journée particulière aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la Cour va revenir sur les faits, sur cette nuit d'horreur au Bataclan, sur les terrasses parisiennes et au Stade de France. Gladys Laffitte suit ce procès, vous êtes sur place, vous suivez ce procès pour Europe 1. Ça va être un moment très dur évidemment pour les parties civiles, hein.
Oui, parce que c'est la première fois qu'elles vont se replonger dans cette soirée du 13 novembre. Il faut savoir que c'est toujours comme ça que ça démarre un procès. Après les débats techniques, le président lit le rapport des faits. C'est un long résumé des événements, mais aussi de l'identification des auteurs et du début de l'enquête. Aujourd'hui, il est prévu que ça dure 9 heures. C'est long, mais nécessaire. Ça peut parfois être dur à entendre pour les victimes. D'ailleurs, la salle s'est remplie petit à petit de parties civiles dès l'ouverture, il y a une heure environ. Nombreuses ont le visage fermé. Voilà ce que je peux vous dire, car la plupart ont un cordon rouge autour du cou, ce qui signifie qu'elle ne souhaite pas être abordée par les journalistes. Voilà, même si c'est le troisième jour d'audience, c'est finalement le premier jour où l'on va parler du fond du dossier.
Et ce procès débute alors que demain, on va commémorer les attentats du 11 septembre 2001. L'attaque des tours du World Trade Center à New York, horreur absolue des avions qui ont percuté les tours, faisant plus de 3000 morts. Oh my God ! 11 septembre 2001, 11 septembre 2021, ce sera demain. Mohamed Sifaoui, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'islamisme, du terrorisme. Déjà, tiens, qu'est-ce que vous faisiez le 11 septembre 2001? J'imagine que vous vous en souvenez.
J'étais dans un restaurant en train de finir un repas avec deux personnes. J'avais un rendez-vous professionnel justement où je parlais de l'islamisme, de la situation notamment en Afghanistan, parce que je préparais une enquête. Je m'étais rendu en Afghanistan et au Pakistan en avril 2001, quelques mois auparavant. Et donc voilà, j'étais très interpellé par la présence de ressortissants français que j'avais croisés notamment au Pakistan, dans des écoles coraniques, déjà il y a 20 ans. Et évidemment, ces informations avaient fait l'objet d'un traitement médiatique. J'avais fait à l'époque des articles, notamment pour l'hebdomadaire Marianne, mais pas seulement, et quelques interventions télévisées. Donc voilà, j'étais en train de finir un déjeuner. Je regarde cette image d'un avion en percutant l'une des tours. Je pensais, comme beaucoup, je pense, que c'était le lancement d'un film, d'une fiction hollywoodienne, comme d'un film catastrophe, et je revoyais, parce qu'il n'y avait pas le son, et à un moment donné, j'ai demandé au bistrotier d'augmenter le son, et là évidemment.
Et là, vous avez compris que c'était pas du tout du, malheureusement, pas, voilà, du tout du, pas du tout du cinéma. C'était il y a 20 ans, hein, les 20 ans des attentats du World Trade Center. Ça sera donc demain, jour pour jour. Est-ce que de telles attaques pourraient encore être organisées aujourd'hui?
Alors, écoutez, sans alarmisme aucun et sans catastrophisme, parce que parfois quand on annonce les choses avant qu'elles n'arrivent, les gens vous prennent pour un hystérique. Objectivement, la menace djihadiste qui est bien réelle peut se matérialiser par une multitude de modes opératoires. On sait que les organisations terroristes ont toute cette capacité, malheureusement, à nous surprendre par des modes opératoires totalement inattendus. Alors, par l'ampleur et par le mode opératoire en lui-même, j'en doute fort aujourd'hui, parce que d'abord il y a des systèmes de sécurité plus perfectionnés, parce que il y a encore un certain nombre de mécanismes qui font qu'il est difficile de détourner des avions aujourd'hui, mais des attentats d'ampleur avant le 13 novembre, vous savez, on disait, est-ce qu'il est possible encore qu'on ait une telle horreur dans nos rues, et on
et
l'a vu avec
et malheureusement
avec ce
on l'a
passé
vu bien
au Bataclan
sûr.
Et sur les terrasses et au Stade de France, que, évidemment, un commando déterminé, armé de ceintures explosives et de Kalachnikov, peut faire des dégâts considérables à la fois dans l'imaginaire, enfin dans l'inconscient collectif et dans le conscient collectif national et international, mais aussi en nombre de morts. C'est aussi cette horreur qui est mise en évidence. Il y a souvent dans des attentats comme ça, spectaculaires, il y a un nombre de victimes qui est extrêmement élevé.
Merci beaucoup Mohamed Sifaoui d'avoir été avec nous ce matin dans Europe Midi.
Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1.
L'image politique de ces dernières heures, c'est toute la famille de la droite réunie à Nîmes autour de la table du dîner hier soir aux journées parlementaires. Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, Philippe Juvin, tous autour d'une même table. Il y avait également le président du Sénat, Gérard Larcher. Ce matin, c'est Xavier Bertrand qui a passé à son tour son grand oral. Alexandre Chauveau, vous êtes à Nîmes pour Europe 1. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
On rappelle que le président de la région Hauts-de-France ne souhaite pas participer à une primaire. Alors sa présence avait tout de l'opération séduction ce matin, hein ?
Oui, même si en réalité l'accueil a été naturellement chaleureux pour Xavier Bertrand. Il est celui qui détient le plus de soutien pour l'instant devant Michel Barnier et Valérie Pécresse. Et désormais, chaque voix de parlementaire compte, surtout lorsqu'on a décidé comme lui de ne pas passer par la case primaire. Bertrand a donc joué la carte du leader naturel, toujours en tête dans les sondages. Ma victoire n'est pas possible, elle est probable, voilà pour l'attaque de son discours. Mais le président de la région Hauts-de-France sait qu'il ne pourra pas faire sans le soutien du parti. Alors il cajole ses adversaires et se pose en rassembleur de la droite.
Nous serons unis, nous serons forcément unis. Je connais les différents participants possibles à cette élection. Bien sûr qu'il y a des différences de personnalité, de tempérament, parfois même de ligne politique, mais c'est la même famille politique.
Alors hier soir, tous étaient réunis à table autour d'un porcelet à la broche arrosé de costières dans une ambiance chaleureuse, nous dit-on. Laurent Wauquiez était présent pour compléter la photo de famille sur laquelle apparaissait à l'arrière-plan l'ambition bien marquée des uns et des autres.
C'est bon ça, le porcelet à la broche. Merci beaucoup Alexandre Chauveau. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Dans un instant, on ira dans les Alpes de Haute-Provence où est attendu le président de la République. Il va rencontrer des agriculteurs. Mais tiens, c'est le président ou c'est le futur probable candidat à la présidentielle? On en parle dans un instant. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h50, Emmanuel Macron dans les Alpes de Haute-Provence cet après-midi. Il va rencontrer des agriculteurs, il va annoncer de nouvelles aides. Jacques Serret sur place à Corbières en Provence. Bonjour Jacques.
Bonjour Romain.
C'est le président ou c'est le futur probable candidat à la présidentielle que vous allez voir dans quelques minutes ?
Eh bien les deux, et peut-être même un peu plus le candidat, c'est en tout cas ce à quoi s'attendent les agriculteurs ici. Emmanuel Macron devrait arriver dans une petite heure. Alors en ce moment, sous mes yeux, tout se met en place, les tracteurs, les bottes de foin, avec un important dispositif policier tout autour de ces 100 hectares de terrain, un très vaste champ. Les terres de Gym, c'est l'une des plus grandes foires agricoles en plein air d'Europe. Et il y a déjà beaucoup de monde, pour que vous ayez un ordre de grandeur de cet événement. 80 000 visiteurs sont attendus ici entre aujourd'hui et dimanche. Nul doute que le président s'accordera cet après-midi un bain de foule, comme s'il était en campagne. Selon nos informations, il fera d'ailleurs tout à l'heure des annonces aux agriculteurs au sujet de l'assurance récolte. Emmanuel Macron va s'engager à ce que l'État accompagne mieux les agriculteurs face aux aléas climatiques. Des mesures très attendues par la profession, le chef de l'État le sait. À 7 mois de la présidentielle, hors de question pour lui de faire l'impasse sur l'électorat agricole, hors de question de se priver de la photo d'un président dans les champs, les pieds dans la terre, pour tenter de s'enlever cette étiquette de président des villes.
Merci beaucoup Jacques. Guillaume Cabot, bonjour, vice-président des Jeunes Agriculteurs. Merci d'être en direct dans Europe Midi. Qu'est-ce que vous allez dire au président de la République que vous allez rencontrer tout à l'heure ?
Tout d'abord, bonjour. Alors oui, bien sûr, nous allons avoir beaucoup de choses à dire au président de la République. Bien entendu, tout d'abord, pour nous, jeunes agriculteurs, c'est lui rappeler le renouvellement des générations qui nous tient vraiment à cœur, puisque d'ici 5 ans, il y aura 45% des agriculteurs qui seront à l'âge de partir à la retraite. Donc c'est vital pour la feuille de route de la France, bien entendu. Et donc, on se doit d'avoir une réponse pour répondre à cette problématique.
Et la problématique, du renouvellement.
Des générations.
Pour créer des vocations, en clair.
Susciter des vocations, susciter des nouveaux agriculteurs pour continuer à maintenir cette dynamique sur tous les territoires.
On dit souvent, ça c'est votre priorité. On dit souvent que le monde agricole se sent délaissé. Qu'est-ce que vous en dites, vous ?
On se sent délaissé. Bah, parfois, c'est compliqué parce que des moments, on est un peu loin de tout. On est dans notre travail et c'est compliqué de toucher à tout parce que le métier d'agriculteur est vachement complexe puisqu'on a à la fois de la gestion à assumer, on a la partie économique, on a la partie technique, on a aussi la partie production. Donc aujourd'hui, les agriculteurs sont multiples casquettes. Donc les compétences sont quand même grandes. Donc pour gérer une exploitation agricole, on se doit d'être vraiment accompagné. Et c'est pour ça que lorsqu'on se sent un peu résigné, on se sent un peu loin de tout, surtout lorsqu'on n'a pas forcément les prix pour assurer la rémunération des agriculteurs.
Évidemment, évidemment. En un mot, Guillaume Cabot, les récoltes sont terminées. La tendance pour cette année, c'est une bonne année ?
Alors, sur le territoire de la France, donc l'ensemble des récoltes vont toucher à sa fin, hormis le maïs et les betteraves. Mais sur les premières tendances sont plutôt décevantes, puisque, comme vous le savez, on a eu un épisode de gel au printemps qui a impacté fortement les vignerons et puis l'ensemble des producteurs fruitiers. Les productions de céréales sont revues à la baisse, puisque les pluviométries du mois de mai-juin ont impacté la qualité. Donc c'est pour ça qu'on a assisté à une flambée des cours des matières premières. Donc tout ça fait que ça fait des tonnages en moins sur nos exploitations agricoles. Donc il va falloir que l'on ait du prix pour compenser l'ensemble de ces produits.
Merci Guillaume Cabot, vice-président des Jeunes Agriculteurs, et bonne rencontre avec le président de la République. Axel May, bonjour Axel.
Bonjour.
Service sport évidemment d'Europe 1. On va parler de cette soirée boxe à Roland-Garros. Vous avez bien entendu, soirée boxe à Roland. C'est fou de la boxe à Roland-Garros. Tony Yoka affronte Peter Milas. Comment on a fait pour transformer le temple du tennis en temple de la boxe?
Je vais vous dire, c'est presque assez simple. Vous prenez un court central, vous bâchez la terre battue, vous posez un ring, des sièges VIP tout autour, et puis dans les gradins permanents de Roland-Garros, vous installez 8000 spectateurs. Il y a déjà eu des précédents, mais la dernière fois, c'était dans les années 70, avec notamment Jean-Claude Boutier face à l'Argentin, champion du monde, Carlos Monzon. En tête d'affiche ce soir, Tony Yoka disputera son 11e combat professionnel face, vous le disiez, à un Croate peu connu, Peter Milas.
On n'a pas besoin de grand-chose en boxe. On met un parterre, un ring, et voilà, on peut boxer partout, limite. Si on avait envie de boxer au Trocadéro, on pourrait le faire. Donc on se dit pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas sortir la boxe de son contexte, aller chercher un autre regard, un autre public. Roland-Garros, c'est vrai que c'est très prestigieux et c'est juste ouf, en fait, de se dire qu'on a réussi à le faire. On a réussi à booker le central de Roland-Garros pour un combat de boxe.
Voilà, c'est juste ouf, oui. Tony Yoka.
Voilà, c'est... traduction, c'est fou. C'est dingue, merci. C'est à quelle heure le match
Pour Yoka, ce sera à partir de 22h30.
22h30, merci beaucoup Axel. 12h55, le temps avec Anissa Haddadi. Quelques orages menacent encore cet après-midi. Hein.
Oui, alors ils seront beaucoup moins fort que ces deux derniers jours. Ces orages, en fait, ce sont les derniers orages de la grosse dégradation orageuse que nous connaissons depuis jeudi. Alors, ils vont concerner cet après-midi toutes les régions de l'Est, donc de l'Alsace jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'au Val-de-Saône, jusqu'aux Alpes et même jusqu'en Provence où là, on aura des orages entre le Var et la Côte d'Azur. Des orages également sur les Pyrénées, le Limousin, l'Auvergne et la région parisienne. Alors partout ailleurs, ça va beaucoup mieux cet après-midi. On a eu une matinée assez grise et humide. Eh bien, le soleil est de retour par la façade atlantique. Donc entre la Bretagne et le Pays Basque, il fait très beau tout le long des côtes. Le soleil sera plus généreux également cet après-midi sur la Normandie, le centre et le nord du Limousin. Profitez-en, les températures redeviennent de saison avec 20 degrés à Aurillac, 21 pour Caen et Lorient, 23 à Nantes, Lille et Clermont-Ferrand, 24 pour Bordeaux et Paris, 25 à Strasbourg et 28 pour Marseille et Ajaccio. Demain, un temps encore variable sur l'ensemble du pays et dimanche, c'est une très belle journée qui nous attend.
Merci beaucoup Anissa, 12h56, très bel après-midi à vous sur Europe 1. Dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil.